Henri de Régnier, L'Amphisbène, deuxième partie. À Monsieur Jérôme Cartier, Burlingame, San Francisco, États-Unis. Les Guérets, par Amboise, Indre-et-Loire, 1er octobre 1900. Mon cher Jérôme, vous êtes un singulier personnage de vous étonner que je vous donne de mes nouvelles. Pourquoi ne supposez-vous donc pas que je suis contente en retour d'avoir des vôtres? Ce qui s'est passé entre nous pourrait-il donc nous empêcher de conserver l'un pour l'autre une mutuelle et sincère affection? Est-ce une raison, parce que je ne porte plus votre nom, pour ne plus éprouver du plaisir à l'écrire sur l'enveloppe d'une lettre? Si vous pensiez autrement, ce serait me prêter des sentiments que je n'ai pas. Ce serait bien mal me connaître, et ne le ferait pas cette injure, mon cher Jérôme, à votre remarquable intelligence. Oui, il me semble très naturel que des relations, au moins épistolaires, continuent entre nous. Elles sont pour moi un agrément dont je ne me résoudrai pas facilement à me priver, et je vous assure que ce n'est pas sans amitié que je considère l'adresse de ma lettre. La pensée que ce papier ira, par le paquebot et le railway, vous atteindre au pays lointain où vous êtes resté, me cause même, chaque fois qu'elle me vient à l'esprit, une petite émotion à laquelle se mêle une certaine mélancolie. Je ne jette point ma missive à la boîte sans, avec elle, retraverser quelque peu l'Atlantique. Je l'accompagne à travers les campagnes américaines. Je la vois parcourir les vastes solitudes de votre continent, franchir les montagnes rocheuses et leurs plateaux de neige, passer la Sierra où croissent les grands pins, où fusent les geysers, et redescendre vers cette belle Californie dont j'ai conservé un souvenir si lumineux et si fleuri. La voici maintenant, ma lettre, qui arrive à Berkeley. Elle s'embarque sur le ferryboat. Au-delà de la baie, elle est à San Francisco, puis elle en repart par la gare de Townsend pour votre charmant Burlingame. C'est là qu'elle va vous rejoindre, mon cher Jérôme, et je crois un peu m'y retrouver avec elle. J'ai beaucoup aimé notre cottage de Burlingame. Je vous assure qu'il reste dans ma mémoire comme un lieu charmant. Parmi toutes les maisons qui se cachent dans la verdure, il en est certes de plus luxueuse que la vôtre, mais je n'en connais pas de plus plaisante, de mieux aménagée, de plus aimablement confortable. Votre vieux goût français y corrige à merveille ce que les modes américaines ont de trop positif. Aussi votre demeure est-elle à la fois élégante et bien agencée. Et puis, à mon sens, elle est la mieux située de tout Burlingame. L'emplacement a été admirablement choisi et fait grand honneur à votre discernement. De chez vous, on a en même temps vu sur la baie et sur le Pacifique. Les arbres qui entourent l'habitation sont magnifiques. J'aime aussi beaucoup la grande prairie à barrière blanche où s'ébattent vos poneys et le grand ravin qui longe la route avant d'arriver à la longue allée d'eucalyptus par où l'on parvient au cottage. Je l'ai souvent m'y promener à votre rencontre à l'heure où vous reveniez de San Francisco. En un mot, mon cher Jérôme, j'aime votre Burlingame et j'ai de l'affection pour vous. J'espère que vous ne vous opposerez à aucune de ces deux conclusions et à aucun de ces deux sentiments. Celui que je porte à votre maison me pousse maintenant à vous donner un conseil. Au cas où vous compteriez vous installer là-bas avec Miss Harrington, ne cherchez pas, je vous en conjure, à agrandir et à embellir le cottage. Laissez-le tel qu'il est. Ne jouez pas au milliardaire, bien que vous alliez devenir un de ces personnages, ce qui me fait plaisir pour vous, et qui aussi me fait un peu peur, car je désire sincèrement que vous soyez heureux. Ce souhait me ramène au second des deux sentiments que j'exprimais tout à l'heure. Mon affection pour vous. Je ne doute pas, mon cher Jérôme, que Miss Harrington ne soit une femme parfaite et ne fasse votre bonheur. Vous avez du reste tous les atouts au jeu. Alicia vous adore et vous approuvera en tout ce que vous voudrez, si vous sera assez agréable, car entre nous, Vous êtes quelque peu égoïste. On ne le prenait pas en mauvaise part. C'est une simple remarque que j'en fais, et non pas un blâme que j'en porte. Vous êtes ainsi, et chacun de nous est ce qu'il peut. Tel que vous êtes, vous m'êtes très cher, et cependant vous en avez paru douter dans la lettre que vous m'écrivîtes après mon départ. Eh bien, vous aviez tort. Laissez-moi plutôt croire que ce que vous en disiez était l'effet d'une feinte modestie. Vous savez très bien ce que vous valez, et vous me connaissez assez pour être sûr que je rends justice à vos mérites. Vous étiez donc malvenu à suspecter mes sentiments. Vous avez toujours été très bon pour moi, et je ne vous en garde aucune vive reconnaissance. Mais puisque vous vous montrez si pointilleux, voulez-vous que nous récapitulions ensemble ce que je vous dois? Cela vous assurera sur la vérité de mes assertions. Je n'ai en effet eu jamais qu'à me louer de vous, mon cher Jérôme. Quand je vous ai connu, j'étais au couvent. J'ajouterai que j'y étais à un âge où il commence à devenir ridicule d'y être, à 19 ans sonnés. La plupart de mes compagnes avaient déjà pris leur volée. Elles étaient rentrées dans leur famille pour faire le début dans le monde. Plusieurs étaient mariées. Ma meilleure amie, mademoiselle de Kergis, de chez qui je vous écris, avait déjà convolé en juste et en injuste noces, car dès la première année de son mariage avec M. de Gersainville, elle se vantait d'avoir eu 2 amants. Donc, pendant que mes camarades étaient déjà partis pour la vie, moi, je demeurais derrière les grilles. On m'y gardait un peu par complaisance à cause de ma vieille parente, la mère Véronique. Ma situation d'orpheline inspirait une certaine pitié à la communauté. D'ailleurs, ma mère avait été élevée jadis chez ces dames de Sainte-Dorothée, en souvenir de quoi j'y étais traité en pensionnaire privilégié. Cependant, à moins de prendre le voile, ce dont je n'avais nulle envie, je ne pouvais m'éterniser là, mon avenir me préoccupait. Il n'était pas de couleur rose, mon avenir. Ma mère, en mourant, m'avait laissé presque sans fortune. Ma pauvre maman n'a jamais été très bon comptable, et l'héritage de mon père avait fondu entre ses jolies mains paresseuses. Une fois hors du couvent, que deviendrais-je? Je ne possédais naturellement aucun métier. J'avais de l'instruction, oui, et c'était tout. J'étais capable d'enseigner le piano, de donner des leçons de dessin et, à la rigueur, de me placer à l'étranger comme institutrice ou comme demoiselle de compagnie. Il me restait aussi la ressource de me faire cocotte. N'étais-je pas fille d'un officier supérieur? Non, je ne me sentais aucun goût pour aucune de ces solutions. Malgré ma légèreté de jeune fille, cette question d'avenir n'était pas sans me tourmenter. J'y songeais parfois avec anxiété, la nuit, dans mon petit lit de pensionnaire, en regardant la veilleuse faire au plafond des ronds de lumière qui auraient bien dû être des pièces de 100 sous. Pour gentille qu'elle fût, j'étais fort embarrassé de ma personne. Il y avait bien la ressource de recourir aux amis de ma mère. Il se trouvait dans leur nombre quelques braves dames qui ne m'eussent refusé ni un conseil, ni même une recommandation. Elle venait assez volontiers me visiter au parloir, m'apporter des gâteaux et des bonbons, s'attendrir un moment sur ma situation d'orpheline pauvre. Mais laquelle eût voulu faire pour moi davantage? Laquelle m'eût aidé véritablement et efficacement à me débrouiller? Laquelle eût consenti à se charger de moi? Aucune n'aurait eu ce courage et cette charité, pas même l'excellente Madame Bouvane. Et puis, assumer une pareille responsabilité. Pensez donc, une grande demoiselle comme moi, quel fardeau et quel embarras! Cependant, Madame Bouvane se fut peut-être risquée. Mais Madame Bouvane avait son neveu, Antoine Hurtin. Et l'idée que je chercherais peut-être à me faire épouser paralyser ses meilleures intentions à mon égard. Quoique né avec de grandes qualités et un rien de folie, Madame Bruvane est une bourgeoise, et que son neveu contracta un mariage sans fortune lui parut une véritable calamité. Comme si cela n'eût pas mieux valu pour ce gros garçon que de passer ses nuits au tripot, que de s'abrutir de sport et de courir les filles. Mais voilà, Madame Bruvane est une bourgeoise. La fête lui en impose et elle a un certain respect pour les fêtards. Tandis que la pensée que son argent irait à une jeune fille sans le sou bouleversait tous ses principes. En effet, le mariage était pour moi la seule issue, et ces dames de Sainte-Dorothée le savaient bien. L'établissement de leur pensionnaire est le couronnement de l'œuvre d'éducation qu'elles entreprennent. Aussi sont-elles de grandes marieuses devant l'Éternel. Elles excellent à caser et à conjoindre leurs ouailles. À ce jeu de petit bonheur, elles sont véritablement émérites. Mais encore, pour y réussir, leur faut-il un appoint qui me manquait. Si, sans être riche, j'avais eu une dot raisonnable, nul doute qu'elles n'eussent tiré pour moi le parti le plus avantageux. Elles possèdent de nombreuses relations, l'esprit de combinaison et d'intrigue. Elles méditent longuement et patiemment leurs projets. Elles emploient pour les mener à bien les pieuses armes du cloître. Mais que voulez-vous qu'elles fassent quand elles n'ont pour mise au jeu qu'une jolie figure et une taille bien prise? Tout cela n'est guère négociable. Ces sortes de mariages fondés sur les seuls appas de la nature, c'est le diable qui les fait. Nos bonnes mères ne s'en mêlent point. Ah, donnez-leur plutôt quelques petits laiderons, même maigrement dotés. Elles parviendront bien, malgré tout, à la sortir. Moi, je ne présentais pas les conditions requises. J'étais inutilisable. Je m'en rendais compte. Et c'est alors, mon cher Jérôme, que vous êtes intervenu. Je me souviendrai toujours de la première fois où je vous aperçus au parloir. J'y avais été appelé par la vieille comtesse de Felletin, et j'avais dû subir le contact trop affectueux de son manteau barbu. Vous étiez venu à Sainte-Dorothée pour y voir la fille de votre ami, M. Inland de San Francisco, qui se perfectionnait parmi nous dans la connaissance du français. Vous deviez rapporter à son père des nouvelles de notre petite condisciple. Cette mission n'avait rien de dangereux, et cependant elle vous valut une étrange aventure. Vous ne vous attendiez pas, en venant sans méfiance à Sainte-Dorothée, à en ramener avec vous en Amérique une grande fille comme moi. C'est le diable qui vous a joué ce diable de tour. Oui, vous, un garçon sérieux, très sérieux même, puisque vous n'aviez pas craint de vous expatrier pour chercher fortune dans le Nouveau Monde, vous y avez ramené une petite Française, sans sou ni maille. Et c'était d'autant plus curieux que vous aviez juré de jamais vous marier. Vous aimiez votre liberté, votre vie de travail. Après de dures années de déception et de tâtonnement, vous étiez arrivé à acquérir une belle indépendance pécuniaire. Ah, vous n'étiez pas ce que l'on appelle riche en Amérique, mais vous étiez ce que nous nommons en France un bon parti. Enfin, vous aviez atteint le moment où vous pensiez jouir de votre liberté, de votre fortune. Après 10 ans d'absence, vous reveniez à Paris pour goûter les plaisirs de la situation que vous vous étiez laborieusement acquise et que vous comptiez bien mener haut et loin. L'instant vous semblait propice pour reprendre pied à Paris, y renouer vos relations, fréquenter les petits théâtres, vous divertir avec des dames du demi-monde et en rapporter là-bas d'agréables souvenirs. Eh bien non, mon pauvre Jérôme, le sort en avait disposé autrement. 8 jours après votre arrivée, à peine vos malles défaites, vos premières cartes posées chez vos amis d'autrefois, le hasard a voulu que vous vinssiez au parloir de Sainte-Dorothée et que vous y trouvassiez en même temps que la vieille Madame de Felletin une petite gueuse de pensionnaire qui attira votre attention. Et le pire de l'aventure pour un électricien comme vous fut que vous reçûtes le coup de foudre. Car ce fut le coup de foudre, Jérôme. Souvenez-vous-en, comme dit la chanson. 10 minutes après m'avoir vu, vous vous fassiez reconnaître par Madame Felletin et vous m'étiez présenté. Je vous rendis gravement votre salut, et bien que l'uniforme du couvent ne m'avantageât pas précisément, votre sort était décidé. La semaine suivante, Madame de Felletin, ahurie, stupéfaite, les poils de son menton dressés d'étonnement, accourait de votre part pour me demander ma main, sans rien dedans. Quelle folie! Mais c'était aussi la faute de Paris. Vous croyez américanisé, vous étiez demeuré très français, c'est-à-dire capable de l'acte le plus fou et le plus inconsidéré, d'un acte désintéressé, ce qui est le comble de l'absurdité. Oui, mon cher, l'air de Paris, l'air de France, vous avez monté au cerveau. Vous me preniez sans dot, comme dans les comédies. Vous vous montriez l'un des derniers tenants du mariage chevaleresque. De ce beau mouvement, je vous serai toujours reconnaissante. Cependant, il importe de ne pas se duper. Certes, votre acte était socialement généreux et fou. Sentimentalement, il était quelque peu autre. Votre chevalerie avait ses mobiles, et elle contenait à votre insu une certaine part d'égoïsme. Vous y trouviez des compensations qui en modifiaient la valeur morale. La vérité, oh, il faut bien le dire, était que physiquement je vous plaisais beaucoup. Vous ressentiez pour moi un goût sensuel des plus violents et des plus impérieux. Vous aviez l'air de vous conduire en gentilhomme, mais au fond, vous agissiez comme un trappeur qui s'adjuge coûte que coûte une proie désirée. Je ne saurais vous en blâmer, car ces sortes d'enlèvements légaux sont toujours flatteurs pour une femme. Mais je constate le fait, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, nous récapitulons. Donc, je ne vous reproche rien, mon cher Jérôme. Je tiens seulement à bien définir la nature du lien qui s'est établi entre nous. N'est-ce pas sa nature même, d'ailleurs, qui fait qu'il ait pu se dénouer plus tard sans douleur et sans violence? Les amours comme les nôtres sont dans des conditions à ne pas durer éternellement, et leur satisfaction même est la cause de leur fragilité. Oh, vous pouvez reconnaître que je ne vous ai pas marchandé les privautés auxquelles vous aviez droit. Mais le temps a passé, et vous avez constaté que vous y attachiez peu à peu moins de prix. Souvent, une union résiste à une dépréciation de cette espèce. Des similitudes de caractère y créent une nouvelle entente qui se substitue insensiblement à la première. Mais ce ne fut pas notre cas. Et nous aurions pu être fort malheureux si je m'étais aperçu à temps du malentendu qui s'introduisait entre nous. Car c'est moi qui m'en suis rendu compte la première. Certes, je n'avais pas cessé d'être pour vous une femme possible, mais je n'étais plus l'indispensable. J'étais un pis-aller que l'habitude vous rendait tolérable. Mais je ne tenais pas dans votre vie la place que vous eussiez faite volontiers à une personne plus apte que moi à y prendre une part active et efficace. Peut-être eussiez-vous toujours ignoré cette situation si je n'avais eu le courage de vous en avertir. Et je fus aidé à cette détermination par l'arrivée de Miss Hardington. Dès que Miss Hardington se fut installée à Burlingame et que je commençais à la connaître un peu, j'ai tout de suite compris l'avertissement que me donnait sa présence. Alors j'ai fait des comparaisons et j'ai réfléchi. Oh, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir ce dont je me doutais déjà. La femme qui vous aurait convenu, mon cher Jérôme, ce n'était pas moi, c'était Miss Hardington. Une Miss Hardington eût été capable de s'intéresser à vos affaires, de vous y conseiller, de vous y seconder. De plus, son énorme fortune vous aurait fourni le moyen de développer toutes vos facultés. Quel appoint admirable, quel merveilleux levier à votre effort intelligent. Une vérité indiscutable me frappait. C'était par une union avec Miss Hardington que s'ouvrait la véritable voie de votre destinée. Je me serais cru coupable de vous faire manquer cette magnifique occasion. Dès lors, mon parti était pris. J'étais résolu à vous procurer cette chance unique. J'y ai réussi. Votre mariage avec Miss Hardington est maintenant, je l'espère, une chose accomplie. Si je suis certaine que vous m'en êtes à présent reconnaissant, je dois reconnaître, mon cher Jérôme, que vous ne vous êtes pas laissé convaincre sans résistance. Cette attitude a contribué du reste à l'estime et à l'amitié que j'ai gardée pour vous. Mes premières ouvertures furent fort mal accueillies. À l'idée de notre séparation, de notre divorce, vous vous êtes fort gentiment, fort galamment, fort sincèrement révolté. Ce mouvement fut même si sincère que vous en avez repris pour moi l'ancien attrait physique dont vous étiez quelque peu déshabitué. Je me prêtais de bonne grâce à cette suprême expérience et nous connûmes une seconde lune de miel qui n'eut rien pour moi de désagréable. De son côté, Miss Alicia s'opposait généreusement à ce qu'elle croyait être de ma part un affreux sacrifice. Tout cela fit que j'eus quelque peine à vous amener l'un et l'autre à une juste appréciation de la situation et à vous faire accepter enfin le bonheur mutuel que je vous offrais. Vous mettiez l'un et l'autre une sorte de point d'honneur à ne pas vouloir convenir de la vérité de mes assertions. Enfin, je suis parvenu à vous faire entendre raison. Je vous ai rendu ainsi à tous deux un réel service. C'est ainsi qu'il faut se conduire entre gens pratiques, et nous nous sommes prouvés qu'aucun de nous ne manquait de cette qualité. Car c'est au nom de ce sens pratique même que j'ai pu accepter de vous la récompense de mes bons offices. Je sais bien qu'en agissant ainsi, j'ai renoncé à vous laisser de moi le souvenir d'une héroïne de roman. Mais que voulez-vous, mon cher Jérôme? Je suis une femme qui aime la vie et qui désire la vivre la plus agréablement possible. Aussi ai-je accepté sans façon de pouvoir, grâce à vous, mener dorénavant à peu près celle qui me plaira. En somme, je suis une indépendante et je n'ai pas refusé que vous m'assurassiez une agréable indépendance. D'ailleurs, vous ne m'auriez jamais laissé vous quitter sans pourvoir à ce que je puisse mener loin de vous une existence honorable. Il eût peut-être été plus beau, certes, que je m'en allasse de chez vous comme j'y étais venu, mais y a-t-il lieu de s'étonner que 5 années d'Amérique m'aient un peu américanisé? De ces 5 années, je garde, et j'aime à vous le répéter, mon cher Jérôme, un fort bon souvenir. Nous ne nous y sommes pas diminués, ni l'un ni l'autre, à nos yeux réciproques. Nous ne nous sommes pas séparés comme des gens vulgaires, qui, cessant de se plaire, travaillent à se trouver des raisons à se mépriser. Loin de là, nous avons simplement procédé à une rectification de nos destinées. C'est une opération loyale et sage que nous avons accomplie en pleine liberté d'esprit et en parfaite entente. Cela laisse place entre nous à l'affection et à l'estime. C'est pour cela, comme je vous le disais au commencement de ma trop longue lettre, que j'ai grand plaisir à vous écrire et à penser à vous. C'est pour cela que je me souviens très amicalement de notre Burlingham, de ses prairies, de ses arbres et de sa belle vue. Entre nous, même, je préfère votre cottage californien à cette propriété tourangelle des Guérets, dans laquelle je suis venu passer quelques semaines chez mon ami Madeleine Gersainville, avant de regagner Paris, où je vais tâcher de m'installer convenablement un petit coin gentil. J'espère que vous viendrez m'y voir avec Miss Hardington, quand elle sera devenue la seconde Madame Cartier, et que vous honorerez d'une visite notre vieille Europe. Vous y trouverez une amie fidèle, mon cher Jérôme. en votre ami dévoué. L'or de l'airain. À Monsieur Jérôme Cartier, Burlingame, San Francisco, États-Unis. Hôtel Manfred, 56 rue Lord Byron, Paris, le 20 novembre. Mon cher Jérôme, me voici à Paris et je vous avoue que je suis bien aise d'y être. Je n'avais fait qu'y passer quelques jours au débarquer du paquebot, et ces quelques jours, j'avais dû les passer en compagnie de ces excellents Duckworth qui avaient été charmants pour moi pendant la traversée de New York au Havre. Ce sont les meilleurs gens du monde, mais ils sont mortellement ennuyeux. Cependant, j'aurais mauvaise grâce à en dire du mal, car ils se sont montrés pour moi aux petits soins. Madame Duckworth m'a comblé de pastilles contre le mal de mer. Monsieur Duckworth a veillé à ma sécurité et à ma santé. Il traînait ma chaise longue au meilleur endroit et m'apportait mon plaid dès que le temps fraîchissait. En un mot, il a été parfait. Il m'a bien demandé deux ou trois fois de consentir à être quelque peu sa maîtresse, ajoutant qu'une maîtresse française, aussi jolie que moi, lui rendrait tout à fait inoubliable son séjour à Paris, mais voyant que ses propositions ne me tentaient guère et ne me causaient point un enthousiasme excessif, il n'a pas insisté outre mesure et a rabattu plus modestement ses vues sur une jeune dame wurtembergeoise qui était au nombre des passagères et qui n'a pas beaucoup résisté aux avances du brave Duckworth, car il m'est arrivé plusieurs fois pendant la traversée de les apercevoir tendrement penchés sur la lys. Il m'a même semblé que Duckworth était parvenu à ses fins avant d'aborder au Havre. En y débarquant, l'aimable Allemande portait au doigt une fort belle bague qui paraissait bien provenir des libéralités reconnaissantes de notre ami. Ce succès l'avait mise en gaieté, et pendant la semaine où nous habitâmes ensemble le Palace Hotel, nous fîmes une forte fête. Chaque soir, on allait souper après le théâtre. Malheureusement, Duckworth est un soupeur plus bruyant que brillant. Vous connaissez ses habitudes de table et vous pensez que j'eus bien trop assez de ses divertissements nocturnes. Aussi le temps raisonnable donné au couple Duckworth éprouvais-je le besoin d'un peu de repos. L'occasion se présenta. J'avais télégraphié mon arrivée à mon amie Madeleine de Gergis, devenue, comme vous savez, comtesse de Gersainville. Madeleine n'était pas à Paris et devait séjourner jusqu'à la fin de décembre dans sa propriété des Guérets. Il va sans dire qu'elle m'invitait à aller la rejoindre pour y demeurer avec elle le temps qu'il me plairait d'y rester. Son mari joignait à l'invitation un mot des plus aimables. Ma décision fut vite prise. Si je n'étais pas autrement pressé de lier plus ample connaissance avec M. de Gersainville, que je l'avais fait qu'entrevoir lors du mariage de mon ami, j'avais hâte de revoir Madeleine de Gergis. De plus, l'automne de Touraine me tentait assez. Il est fort beau, très doux, très lent. Et vous savez, mon cher Jérôme, que j'aime les arbres jaunissants, les belles feuilles mortes dans les sentiers, l'odeur des terres que répandent les bois à leur déclin. J'acceptai donc l'offre des Gersainville, et je partis pour les Guérets, laissant les braves Duckworth épuiser seuls les joies de Paris. Oh, je ne vous ferai pas une description détaillée des Guérets. Je sais pourtant que vous la liriez avec plaisir, car le sens des affaires n'a pas atrophié en vous celui de la nature. Vous êtes grand amateur de futaies, de jardins, de châteaux. Vous possédez l'entente de la décoration et de la bâtisse, et vous l'avez prouvé en faisant de Burlingame un endroit charmant. Néanmoins, je vous dirais simplement que les Guérets sont une agréable maison de campagne, mais qui n'a rien de somptueux et de particulier. Vous voilà donc un peu déçu, car vous vous attendiez probablement à ce qu'en Touraine, pays d'architectures historiques, je vous parle là de cheminées sculptées, de fenêtres à meneaux et d'escaliers à double vis, le tout écussonné de salamandres et de fleurs de lys. « Eh bien, mon cher, il n'en sera rien, et pour la bonne raison que les guérets ne furent construits ni par François Ier ni par Catherine de Médicis. Ils ont une origine plus humble qu'ils doivent à un sieur Gombeau, médecin du duc de Choiseul, lequel accompagna son protecteur en exil à Chanteloup et fit bâtir, auprès du château maintenant détruit, une bonne et belle maison de style Louis XV, entouré d'un charmant jardin et situé à deux portées de seringue de la forêt d'Amboise. C'est dans cette maison que les Gersainville se sont accommodés. Monsieur de Gersainville a eu en héritage d'une de ses tantes. La vieille dame avait empli les guérets d'un épouvantable mobilier Louis-Philippe, mais n'avait pas touché aux boiseries qui garnissaient la plupart des pièces. Les Gersainville les ont remises en état et ont fait disparaître les fatras de la bonne tante pour les remplacer par de gentils meubles anciens, sans grande valeur mais plaisants à la vue. Ils ont fait aussi installer au Guéret des salles de bain confortables et des cabinets de toilette ingénieux. Quant aux cuisines, elles sont admirables. Le sieur Gourbeau, qui était sans doute gourmand, les avaient voulu vastes et commodes. Les Gersainville se sont pourvus d'une excellente cuisinière. Ils passent au Guéret 4 ou 5 mois chaque année. Je les comprends et je les approuve, car celui que j'y ai passé m'a paru court et charmant. D'ailleurs, j'aurais été bien ingrate si je ne m'étais pas plus dans ce logis. L'accueil que j'y ai reçu fut délicieux et cordial. Vous savez que j'aime beaucoup mon amie Madeleine, et je crois, sans me flatter, qu'elle me rend quelque chose de mon affection. Aussi éprouvâmes-nous grand plaisir à nous retrouver ensemble après cette longue séparation. Nous avions tant de choses à nous dire. Ce fut par des compliments que nous commençâmes. Madeleine voulut bien m'assurer que ces 5 années n'avaient pas trop nui à ma figure, et je pus, sans mentir, lui rétorquer la même gentillesse. Madeleine, en effet, me parut très en beauté. Toujours les mêmes beaux yeux, la même belle bouche, ce même menton hardi, cette même tournure élégante qu'elle avait à 18 ans. Une seule différence, cependant, je l'avais laissée châtaine, et je la retrouvais du plus riche roux doré. Cette couleur des cheveux lui saillait du reste à merveille. Elle n'avait fait en se blondissant ainsi que réparer une inattention de la nature. Sur ce point, M. de Gersainville était du même avis que moi. Cette communauté d'opinion commença notre bonne entente, et je m'en félicitais car Gersainville est un charmant garçon, et j'aurais été désolé qu'il me considérât comme une intruse. Mon arrivée n'avait pas été sans lui causer quelque appréhension, car Gersainville n'a qu'un défaut, il aime ses aises et déteste se gêner. Aussi l'annonce de ma venue l'avait-elle quelque peu inquiété. Pensez donc, une Américaine, n'est-ce pas une personne sportive, agitée, douée d'une activité incessante et de toutes les curiosités? Ne faudrait-il pas la promener à travers le pays, lui organiser des parties et des déplacements, l'occuper, la distraire et la divertir? Or, Gersainville a en horreur ce genre d'existence et cette sorte de personne. Quelle satisfaction ne fut donc pas la sienne lorsqu'il découvrit que je n'étais rien de ce qu'il craignait que je fusse, qu'au contraire il aurait affaire à quelqu'un de tranquille. Et son soulagement fut infini quand il apprit que je venais au Guéret pour me reposer et non pas pour courir les routes en touriste, en un mot qui ne serait obligé à rien envers moi. Lorsqu'il fut bien sûr que j'étais une visiteuse inoffensive à ses manies, il me trouva tout à coup adorable. Et quoi, oui, j'aimais à rester tard au lit, à rôder de longues heures dans le jardin, à faire des promenades solitaires dans la forêt, à demeurer assis dans un fauteuil et à bavarder interminablement avec Madeleine. Je ne demandais à voir ni Chenonceau, ni Chambord, ni Azay, ni Ussé. Un pareil désintéressement de ma part dépassait toutes ses espérances. Il me l'avoua naïvement, comprenant que je ne menaçais pas sa sécurité. Il eut pour moi toutes les prévenances dont il est capable. Je dois dire cependant que ce n'est pas énorme. Gersainville est l'être le plus distrait, le plus braque, le plus dans la lune que j'ai rencontré. Il est ainsi par nature. Il y a des moments où il est vraiment absent de tout ce qui l'environne. J'ajouterai que cette distraction naturelle est encore augmentée chez lui par une circonstance aggravante. Gersainville a été, avant qu'il donnât sa démission pour se marier, attaché pendant 3 ans à la légation de Chine à Pékin. Et pendant ces 3 ans de Chine, il a pris l'habitude de fumer l'opium, ce qui n'a pas peu contribué à faire de lui le distrait qu'il est à un point si remarquable. Sa sympathie à mon égard s'est renforcée de l'indulgence qu'il a rencontrée chez moi, pour un goût que je n'ai pas le courage de blâmer. On est bien libre de chercher le moyen qui vous plaît le mieux pour embellir la vie. Madeleine a le sien, que je vous dirai plus tard. Gersainville a trouvé celui-là, et tout est pour le mieux. Cette indulgence pour mon opiumane Tourangeau et pour ses pareils m'est venue, mon cher Jérôme, de nos courses à travers la Chinatown de San Francisco. Lorsque vous m'êtes emmené là-bas, ce fut une des premières curiosités du pays que vous me montrâtes. Vous souvenez-vous de nos promenades à travers les rues populeuses du quartier chinois, de nos stations dans les bizarres boutiques où l'on débite d'étranges produits, où l'on peut acheter des nids d'hirondelles séchées et des petits poissons tout recroquevillés de Saumur, de nos visites chez les marchands de lacs et de soieries, chez les vendeurs de thé, et le Joss House où l'on brûle devant des idoles saugrenues et dorées, des bâtonnets d'encens et des découpures de papier, et nos soirées au théâtre. Quelle impression singulière j'éprouvais devant ces spectacles, pour moi incompréhensibles. On jouait là des pièces interminables, pleines de batailles et de supplices, dont l'action mystérieuse se déroulait en colloque, en vociférations, en mimiques, le tout accompagné d'une barbare musique de tam-tam et de gong qui redoublait de violence et d'éclat au moment pathétique. Et ce qui était plus étonnant encore que le spectacle, c'était l'assistance. Ces centaines de faces jaunes, prodigieusement attentives aux simagrées comiques et tragiques, qu'ils contemplaient de leurs minces yeux bridés. Je fus au sortir d'une de ces séances théâtrales que justement Liu Kouaf nous conduisit dans une fumerie d'opium. Je revois encore la salle basse et silencieuse où nous pénétrâmes, les nattes étalées, la lueur rougeâtre des petites lampes. Il me semble entendre encore le grésillement de la boulette cuisante au bout de l'aiguille, respirer l'odeur indéfinissable du lieu. Et quelle parfaite indifférence accueillit notre venue. Pas un des fumeurs ne prêta la moindre attention à notre groupe d'intrus, pas plus que le noir chat maigre qui rôdait de lit en lit et semblait savourer béatement la fumée des pipes. Oh, je ne voudrais pas que vous supposiez que M. de Gersainville soit pareil à ces Chinois abrutis que nous visitâmes un soir. Gersainville n'est pas un monomane qui s'abandonne à son vice. C'est un amateur intelligent qui satisfait son goût avec prudence et mesure. C'est un passionné qui cultive sa passion avec ordre et méthode, qui veut la faire durer et en tirer tout le plaisir possible sans se laisser complètement dominer par elle. Aussi met-il, quand il le faut, des points d'arrêt à son intoxication. Il la suspend et la limite. Il sait la réduire et la gouverner. Il est encore capable d'une tempérance relative. Il ne fume pas avec frénésie, mais avec calme, conscience et raisonnement. Néanmoins, comme tout fumeur d'opium, même raisonnable, il a le goût du prosélytisme. La première conversion qu'il songea naturellement à opérer fut celle de Madeleine. Même Madeleine est réfractaire à la drogue et pleine d'un saint mépris pour ses pratiques. Elle n'a nul besoin, nulle envie d'oublier la vie qu'elle juge bonne. Elle le trouve inutile d'obscurcir de fumée la flamme capricieuse et claire de ses yeux. Les rêves ne lui disent rien, la réalité lui suffit. Sur ce point, nous sommes du même avis, Madeleine et moi. Aussi, vous pensez bien que, pas plus qu'elle, je me suis laissé convaincre par les arguments de Gersainville. Pour le moment, du moins, toute cette piperie ne me tente guère. Peut-être plus tard, n'en sera-t-il pas ainsi. Quand je serai revenu de bien les choses, quand j'aurai vécu davantage, peut-être serai-je heureuse de trouver ce refuge contre l'ennui, contre la solitude, contre la vieillesse. Maintenant, grâce au ciel, je n'en suis pas là. C'est ce que j'ai déclaré à Gersainville le jour où, tout à fait en confiance avec moi, il m'a fait visiter sa fumerie et m'a proposé galamment l'usage de sa plus belle pipe chinoise. Elle est charmante d'ailleurs, cette fumerie, et Gersainville est vraiment un homme de goût. Il a installé son attirail de pipe et de petites lampes dans une des plus amusantes pièces de la maison. Cette pièce servait de cabinet au médecin Gombeau. D'aimables boiseries encadrent des panneaux peints sur lesquels se représentaient, au milieu d'arabesques, des singes apothicaires. Le bon Gombeau semble montrer par cette facétie murale qu'il ne faisait pas grand état de son art, ni grand art qu'à de ses confrères. Le fait est que l'on voit sur ces panneaux toute une ménagerie de singes affublés de robes, de bonnets carrés, de perruques et de besicles, jouant avec les attributs de la profession qu'il parodie assez irrévérencieusement. Les uns manient des lancettes et des bassines, d'autres des cornues et des tabliers. Beaucoup, comme bien vous pensez, sont munis de l'instrument cher à Molière et que Bravaz a perfectionné pour des usages plus délicats. C'est parmi ces gambades simiesques et doctorales que M. de Gersainville a établi sa fumerie, et il a arrangé d'une façon qui aurait plu certainement à l'homme falote et goguenarde du sieur Gombeau. Le médecin du duc de Choiseul eut retrouvé là un des goûts les plus chers à son temps. Le XVIIIe siècle, je ne vous l'apprends pas, mon cher Jérôme, a eu la passion des turqueries et des chinoiseries. Tout un art charmant et léger est né de ces imitations orientales. Décorations, tableaux, dessins, gravures, étoffes, l'époque a créé tout un mobilier baroque sous l'influence des Mille et une nuits de M. Galland, des lettres persanes de M. de Montesquieu et des contes de M. de Voltaire. Ce fut une véritable invasion de magots à longue natte et de pachas à trois queues. Ils prirent possession des étagères, occupèrent les vitrines, s'installèrent dans les cadres, se montrèrent dans la laque des commodes et des paravents. Et c'est de ces gentils objets où la chinoiserie se mêle au rococo que Gersainville a orné son boudoir à opium, car c'est plutôt un boudoir qu'une fumerie véritable, cette pièce étroite et longue avec ses panneaux de singerie et ses dessus de porte qui représentent des bonshommes du céleste empire de Madame de Pompadour, et des personnages du royaume de Zadig. Gersainville y a placé deux étonnantes commodes, l'une en laque noir et or, l'autre en laque rouge, presque rose, et une ottomane digne d'une sultane d'opéra. C'est là qu'il se livre au plaisir du bambou, dans cet Orient de Trianon, où l'odeur barbare, sournoise et compliquée de l'opium, encore je ne sais quoi de plus singulier, de plus étrange, à deux pas de la pagode de Chanteloup, que l'on peut apercevoir de la fenêtre, dressant au ciel ses étages, dont l'inclinaison inquiète menace ruine, et qui met, dans ce calme paysage tourangeau, une note comique d'exotisme bien français. C'est donc dans ce boudoir que l'excellent Gersainville passe le meilleur de son temps, soit à lire, soit à rêver, soit à fumer. Par contre, Madeleine y paraît assez rarement, ce qui d'ailleurs semble parfaitement égal à son mari. Oh, ce n'est pas que Madeleine et lui soient mal ensemble. Loin de là. Ils entretiennent de fort amicales relations, mais au fond, ils se soucient extrêmement peu de sa femme. Je crois qu'en épousant la belle Madeleine de Gergis, M. de Gersainville a surtout cédé à l'attrait de la dot imposante qu'elle lui apportait. Gersainville, au moment de son mariage, était à peu près ruiné, ce qui l'a conduit à ne pas trop s'inquiéter des fâcheuses histoires de la mère Gergis. Oh, disons cependant, à sa décharge, que la bonne dame, après une vie plutôt agitée, avait eu la délicatesse de mourir fort convenablement. La maman Gergis avait eu le cœur fort tendre et avait entretenu nombre de liaisons quelque peu scandaleuses. Elle s'était même fait enlever deux fois, la première par un ténor du théâtre de Lyon, la seconde par un commis du Beaumarchais. Tout cela faisait que, même Madame de Guercis morte, la fille n'était pas très facile à marier. C'est ainsi qu'en jugeaient les bonnes mères de Sainte-Dorothée. Aussi furent-elles heureuses que Gersainville, garçon de bonne famille, accepta, sans trop l'approfondir, le passé un peu tumultueux de feu sa belle-mère. Et Gersainville s'était donc fait agréer. Quant aux dispositions héréditaires où pouvait se trouver Madeleine, ils s'en préoccupaient médiocrement. Et cependant, il y aurait peut-être eu lieu d'y faire quelque attention. Madeleine aurait mérité de n'être pas trop abandonnée à elle-même et aux autres, mais que voulez-vous? Gersainville n'avait ni l'âge ni le caractère d'un mentor, pas plus qu'il n'a d'ailleurs ceux d'un tyran ou d'un policier. Peut-être en eût-il été autrement, s'il avait été véritablement amoureux de Madeleine. Oh, Gersainville n'est réellement amoureux que de son repos et de sa tranquillité. Le reste lui importe assez peu et il s'est vite désintéressé des faits et gestes de Madeleine. Sur ce point, son indifférence est totale, et cette indifférence est à la fois un bien et un mal. C'est un mal parce que Madeleine aurait eu besoin d'être dirigée et maintenue. C'est un bien parce que tout essai de direction aurait eu grande chance de ne pas réussir et qu'il en fût résulté entre Madeleine et son mari des chocs désagréables. Donc, le parti qu'ils ont pris est-il en somme le plus raisonnable qu'ils aient pu prendre? Madeleine ne se mêle jamais des affaires de M. de Gersainville, qui lui laisse en retour une entière liberté. Je ne vous cacherai pas plus longtemps, mon cher Jérôme, que de cette liberté, mon ami Madeleine use et même abuse. Comment vais-je vous dire cela, et n'allez-vous pas me trouver bien indiscrète? Cependant, il me semble l'être moins que je ne risque de vous le paraître. Madeleine s'explique sur ce sujet avec un manque si gentil de retenue et d'hypocrisie, avec une franchise et un cynisme si naïfs, que ce n'est vraiment pas un secret que je trahis. Madeleine trompait perdument son mari, et elle l'a trompé presque au lendemain de son mariage. Mais sachez aussi qu'elle le trompe sans méchanceté, sans remords, sans préméditation, sans malice, sans aucune des intentions qui mettent d'ordinaire la plupart des femmes. Elle y apporte un naturel parfait, et elle parle de ces choses avec une simplicité désarmante. Aussi, les promptes confidences qu'elle m'a faites m'ont vite mis au courant de la façon dont Madeleine entend l'existence conjugale. Du reste, Ces confidences ne m'ont pas surpris d'autre mesure, et je les attendais un peu. Dès le couvent, Madeleine de Gergis portait aux choses de l'amour un intérêt que l'on peut qualifier d'atavique, et que le mariage n'a fait qu'augmenter. Depuis le sien, Madeleine a donc eu beaucoup d'aventures, si l'on peut qualifier ainsi des décisions amoureuses aussi promptes et aussi simples que celles qu'elle prend avec un tranquille sans-gêne et une déplorable facilité. Madeleine Gerseinville est en effet une créature purement instinctive, et vous ne parviendriez pas à lui faire admettre qu'il y a quelque mal à accorder ses faveurs et qu'il lui plaît. En cela, elle est de l'avis d'un certain nombre de femmes, et peut-être même de la plupart, avec cette différence que ce qu'elle pense en secret, Madeleine l'avoue tout haut avec une parfaite candeur, la même qu'elle apporte à la pratique de la persuasion. Rencontre-t-elle un garçon à sa convenance? Elle n'éprouve aucune hésitation et aucun embarras à agréer ses hommages et à lui faire part des sentiments qui lui inspirent. Ajoutez qu'avec Madeleine, on ne demeure pas longtemps sur le terrain des sentiments et qu'elle a vite fait de leur donner une suite rapide. Madeleine est belle et elle n'est pas fâchée de le faire constater avec le moins de réserve possible. Elle aime laisser dans les yeux de ceux qui l'admirent de vives images de sa beauté. Madeleine est ainsi, et il faut, sans jeu de mots, la prendre comme elle est. Vous ne la convaincriez par aucune raison du monde des inconvénients qu'il peut y avoir à se passer ainsi ses caprices. Vous auriez beau dire, elle ne comprendrait pas, et vous regarderait d'un air étonné. Pour elle, ce qui est pour d'autres femmes un acte décisif et quelque peu tragique, est vraiment un acte sans importance, qu'on peut renouveler aussi souvent que bon vous semble, avec autant de gens que cela vous plaît. À toutes vos objections, Madeleine vous répondra par un sourire distrait et distingué. Elle vous écoutera avec l'air obstiné et condescendant d'une personne qui se sait dans le vrai, à qui vous comptez des balivernes et à qui vous débitez des absurdités. Ah, c'est une curieuse fille que Madeleine de Gersainville. Et je n'ai jamais rencontré un être dépourvu plus qu'elle de toute morale et de tout préjugé. Elle n'est que nature et instinct, et le sien la porte à faire l'amour avec une singulière fréquence. Sa pudeur est des plus limitées. Elle vous raconte des choses énormes en trempant ses tartines dans son thé. Elle se promène à travers la maison, plus qu'à moitié nue et sans se soucier des rencontres. Mais avec cela, oh, la personne la plus douce, la plus gentille, la plus affectueuse qui se puisse voir. Elle est délicate et serviable, elle est instruite, lettrée, et elle écrit fort joliment. J'ajoute qu'au Guéret, elle a une conduite exemplaire et irréprochable. C'est sa saison de repos, sa saison de marmotte, comme elle dit. Ce n'est qu'une fois rentrée dans la vie mondaine, revenue à Paris, qu'elle est reprise de cette sorte de démon qui est en elle et qui fait qu'elle mérite vraiment le nom de possédée. Je le regrette un peu, car une fois installé moi-même à Paris, je serai obligé d'espacer nos relations. Madeleine est une compagnie bien compromettante, et sans être bégueule, je ne tiens tout de même pas à être classée parmi les divorcées galantes. Madeleine encore a son mari, mais moi, je n'ai même pas un amant pour me faire respecter. Je serais navré donc d'être forcé à voir moins souvent ces beaux Gersainville, et peut-être d'avoir l'air d'une ingrate, car j'ai passé chez eux d'agréables semaines. Madeleine a été charmante avec moi et m'a montré la plus gentille amitié. Aussi ne voudrais-je pour rien au monde la peiner. Bof, elle sera si occupée. Enfin, je serai prudente. Je ne voudrais pas participer par trop à la mauvaise réputation que doit avoir Madeleine. C'est si bête de se compromettre inutilement. Je veux mener une existence régulière. C'est pourquoi je veux quitter le plus tôt possible l'hôtel Manfred et louer un appartement. Oh, je ne sais pas encore où j'habiterai. Je vais me mettre à chercher. Cela me fera une occasion de faire connaissance avec Paris. Elle me plaît, cette ville, et il me semble que je serai heureuse d'y être heureuse. Ne prenez pas cela en mauvaise part, mon bon Jérôme. Vous avez fait de votre mieux pour m'y assurer une vie agréable. À moi de faire le reste. Votre ami, Lord Lérin.